Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. Nos documentaires, jusqu'à jeudi, vont rôder autour de la mort. Mais pas la mort conçue comme une fin. L'idée force de la semaine, c'est plutôt que l'homme est d'abord une succession d'hommes. En ce cas, la mort ne l'interrompt pas. Et toujours dans cette hypothèse, de même qu'on dit de l'écriture qu'elle consiste à écouter les mots, on pourrait dire de la vie, pareillement, qu'elle consiste à écouter les morts. Mais que se passe-t-il quand, dans cette école de présence aux morts que serait la vie, la transmission est interrompue quand, par exemple, un adultère, une adoption sont dissimulés? Christelle Le Polotek et Diffie Mariani, à partir de deux cas, auscultent les secrets que bien des familles construisent pour tenter de retenir une mémoire qui ne leur semble pas convenable. D'entrée de jeu, elle interroge une psychanalyste et évidemment François Vigouroux. Cet explorateur bien connu de la puissance des latences note que s'il est dangereux de laisser se rompre brutalement les barrages, il peut être utile d'ouvrir les vannes. Il vaut mieux savoir ce que nos ascendants ont fait de nous pour nous faire nous-mêmes.
Sur les docks, secret de famille, une conversation qui n'a pas eu lieu. Une émission de Christelle Le Polotek et Nathalie Battus. Quand des pans entiers de l'histoire familiale sont passés sous silence, sans que personne ne semble le remarquer, on peut penser que nous sommes au cœur d'un secret de famille. À l'image de la Russie soviétique, où les compagnons de Staline disparaissent un à un des photos officielles, au rythme des disgrâces, le secret de famille est un tour de passe-passe destiné à escamoter les personnages et les épisodes inavouables. Pour ne pas troubler les eaux calmes d'une famille apparemment heureuse et aimante, il se noue dans le tabou, le non-dit. Le mensonge se distille jusque dans les chambres d'enfants, avec une violence feutrée. Il se transmet de génération en génération, souvent à l'insu du dépositaire, qui n'en perçoit que des bribes confuses et incertaines. Une crypte peuplée de fantômes, disent Abraham et Torok, tapis dans l'inconscient, impénétrable, et pourtant déterminante dans notre rapport au monde et dans nos relations aux autres. À nous-mêmes en premier lieu, car le secret de famille se rapporte aux origines. Il touche à l'essence même de notre identité. Filiation trouble, adultère, fortune ou faillite honteuse, le secret de famille est fascinant car il porte en lui l'espoir d'apprendre quelque chose de nous-mêmes. Espoir bien souvent déçu. Le sentiment d'étrangeté ne peut être résolu si facilement. Écrivains, psychanalystes ou psychogénéalogistes, tous ont tenté de sonder cet abîme, mais le secret reste bien gardé car même découvert, il continue d'agir en nous, de conditionner notre place, notre façon de penser, de nous comporter. De cette énigme originelle, on peut cependant en faire le récit avec des trous et des blancs, des souvenirs qui reviennent subitement, des indices qui ne prendront leur sens que bien plus tard, une fois que tous les fils seront tissés.
Le secret naît dans une famille pour préserver l'intérêt, soi-disant, des enfants. Quand je pense au secret, par exemple, sur les origines, c'est pour préserver la prétendue innocence de l'enfant, la qualité de la vie, qu'on lui cache les fautes passées, que ce soit des fautes directes, c'est-à-dire la faute de la mère ou du père, qui ne sont pas les véritables parents de l'enfant, ou la dissimulation de la personnalité de gens proches, qui sont des oncles ou n'importe quoi, mais dont l'image pourrait gâcher l'image de la famille. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'entité familiale apparaît comme menacée pour les parents ou pour tout le monde par l'existence du secret. Donc le secret va un jour ou l'autre, quelquefois jamais, quelquefois oui, être dévoilé, c'est-à-dire apparaître à l'enfant. Soit que dans le cours de sa vie, il fasse des efforts pour le découvrir, et on sait que tous les enfants qui sont quelque part victimes d'un secret déploient énormément d'énergie pour essayer de découvrir quelque chose qu'ils ne savent pas, quelque chose qui les hante d'une certaine façon. La découverte du secret va les délivrer d'une angoisse, qui est l'angoisse, je cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi. ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire qu'en soi, ça ne guérit pas. Le fait de savoir soulage, peut faciliter des aménagements de la vie. Il y a à traiter beaucoup d'autres problèmes qui surgissent. Pourquoi mes parents ont fait ça? Pourquoi on a caché? Qu'est-ce qui se cache derrière, si je puis dire? Et donc là, il y a une infinité de questions traumatisantes qui se posent et qu'il va falloir élucider. Et à ce moment-là, on pourrait dire effectivement qu'il y aurait besoin d'un accompagnement thérapeutique pour aider à faire ce chemin, qui serait le véritable chemin d'intégration de la chose. La découverte en elle-même ne suffit pas. Elle peut même traumatiser, d'ailleurs, à mort, quelqu'un. C'est ce qu'il voudrait, c'est ensuite en faire le deuil de ce que ça représente. Et c'est la notion de deuil qui est la seule notion thérapeutique agissante, c'est-à-dire renoncer à espérer avoir un père qui soit le vrai père, renoncer à avoir une mère qui soit aimante, qui soit proche, renoncer à avoir ce qui n'a pas eu lieu et en faire effectivement l'abandon. Tâche difficile.
Pourquoi un secret de famille va-t-il faire souffrir, on va dire, quelqu'un, et puis le même secret pourra laisser un autre au sein même de cette famille complètement différent? Qu'est-ce qui fait qu'un secret de famille va devenir quelque chose de douloureux?
Au fond, pourquoi une personne souffre plus qu'une autre? Je pense qu'elle a été prise, elle, au fil des générations, dans une loyauté, c'est-à-dire dans une construction où elle a été finalement prise en otage pour essayer de remettre de la parole par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit.
Juliette Allais, psychogénéalogiste.
Mais c'est vrai que tous les enfants, on le voit bien par exemple dans une fratrie, ne sont pas investis de la même manière par leurs parents. Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant le sera plus? Je pense qu'il n'y a pas réellement de réponse à ça, parce que chaque cas est tellement particulier. C'est vrai qu'il y a des secrets de famille qui, d'ailleurs, finissent par s'éteindre au fil des années et qui ne génèrent pas forcément de catastrophes. Donc je pense qu'il y a le secret n'est pas uniquement quelque chose de pathologique. Il y a vraiment une possibilité de transformer tout ce qui n'a pas été dit en quelque chose de lumineux. Par contre, il y a plein de secrets, il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais élucider, ni jamais connaître. Et ça, c'est important aussi de pouvoir lâcher à certains moments. Il y a des tas d'événements, il y a des tas d'endroits de l'arbre généalogique dont on ne pourra jamais rien dire, ni rien savoir. L'enfant capte qu'il y a une zone, une espèce de blanc quelque part, de laquelle on n'a pas le droit de s'approcher. Parce que, par exemple, le sujet ne sera jamais évoqué, parce que, par exemple, ses parents éteignent la télévision quand ils entendent parler de ce sujet-là, ou parce qu'on tout de suite la conversation s'éteint quand le sujet vient à être évoqué. Donc, sans vraiment y faire attention, l'enfant va sentir ce qui est dangereux, ce qui est tabou et ce qui est interdit. Et c'est comme ça qu'il va se construire dans une espèce de, à la fois de relation à cet objet interdit, on pourrait dire, et à la fois de déni. C'est-à-dire qu'il faut l'incorporer, mais tout en niant son existence. Donc ça l'oblige à se construire dans une espèce de clivage, voilà ce qu'on appelle le clivage, et à lui-même, quand il sera devenu parent, à le transmettre de la même manière à son enfant, c'est-à-dire à ne pas parler de quelque chose, de ce fameux secret dont on ne peut pas parler, mais tout en lui transmettant de la même manière que, justement, il ne faut pas en parler. En fait, il y a deux personnes. Il y a deux personnes en une, on pourrait dire ça comme ça, pour résumer.
Il y a aussi une volonté, parfois, de ne pas voir la réalité chez les victimes, ou en tout cas chez parmi les membres de la famille, c'est-à-dire un déni absolu.
Le déni fonctionne pour les auteurs du secret, puisque le déni permet de masquer une faute, et c'est la faute qui est d'ailleurs à l'origine du secret. Donc pour pas être en faute, il faut mieux pas dire ce qu'on fait. C'est une règle que nous appliquons tous à la lettre, à chaque instant. On ne dit pas certaines choses parce que ça pourrait nous nuire. Nuire à la réputation de la famille, nuire aux enfants, et surtout, ça pourrait nuire aux enfants. Si mon fils savait que je ne suis pas son père, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qu'il va penser. Ça va lui cacher la vie, l'avenir, la profession, l'estime de ses collègues et de sa concierge. C'est horrible ce qui va se passer. Donc, je fais déni, il n'y a rien à voir. Et quand on répète aux enfants, il n'y a rien à voir, pourquoi voulez-vous qu'ils aillent voir quelque chose? Il y a déjà un déni parental ou proche qui est en train de mettre un masque, il n'y a rien à voir. Il faudrait vraiment être Arsène Lupin pour pouvoir aller fouiller là-dedans, alors que personne ne vous le demande. Même si profondément, il y a une petite question qui se pose. Donc le déni va continuer. C'est courant, oui. C'est même le cas de ne pas vouloir faire souffrir l'autre. C'est l'envers du système qui consiste pour le parent à dire « Tu es victime d'un secret, mais surtout on ne va pas le dire. Mmh. » Donc tu n'y auras pas accès. Et le même renversé, secret à l'envers, c'est l'enfant s'interdit à lui-même de mettre en cause, parce qu'il sent que ça va blesser, que ça va gêner, que ça va lui retomber sur le nez, de demander « Maman, c'est qui mon père réellement ?» sous une forme plus policée. Hein. Donc il va s'interdire totalement d'aborder le sujet. Donc il est préférable pour lui, dans l'équilibre des terreurs, si je peux dire, de l'enfance, préférable d'éviter le sujet plutôt que d'avoir la réponse. Les gens ne tiennent pas, ni vous ni moi, à connaître la vérité tellement. Hein. Même si elle coûte, même si il y a des victimes, même si ça va pas, pourquoi aller remuer des choses qui ne gênent personne et qui n'ont aucune importance? Même si je suis inquiet ou incertain sur mes origines, pourquoi voulez-vous que j'aille torturer ma vieille mère qui a 65 ans pour lui poser des questions sur ses aventures quand elle était petite, etc. Non. Ça va la fatiguer. Ça pourrait peut-être même la faire mourir. Non. N'y touchons pas. Ça, c'est le processus des adultes vis-à-vis de ce qui est caché. C'est, on n'y va que si on a un coup de foudre qui dégringole ou dégringole sur la gueule, ou si on y prend énormément de précautions et qu'on cherche longtemps, doucement, et qu'on sent surtout le moment où c'est possible.
Comment, même si on apprend la vérité, comment se libérer de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de secrets? Comment reprendre ses marques dans une réalité dont on a finalement été exclu pendant si longtemps?
La libération ne vient pas de l'extérieur. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Elle vient nécessairement par un travail intérieur et par un deuil. C'est le mot qu'il faut employer, par un deuil personnel. Alors, savoir que ma mère n'est pas ma mère, ça c'est plus rare, que mon père n'est pas mon père, c'est effectivement un moment douloureux, tragique. Mais le savoir ne va pas guérir quoi que ce soit. Ça va me plonger dans une autre problématique, dans d'autres problèmes, dans d'autres angoisses éventuellement. Et là, par contre, il va falloir que je fasse avec. C'est-à-dire ne pas compter sur un psychanalyste du dimanche ou du mercredi pour évacuer la chose. C'est moi qui vais l'évacuer, à force du poignet, à la force d'acceptation, de conscience, d'effort sur moi, sur les choses. C'est là que ça se passe. Parce qu'on a, par rapport au secret de famille, on a encore l'illusion que la parole va guérir. Mais non. Elle ne guérit pas. Il y a des cas, je pense d'ailleurs, où des responsables de secret de famille ont intérêt à fermer leur gueule. Ça me paraît évident. C'est pas la peine d'aller remuer les ennuis des enfants en leur racontant des choses qui ne les concernent qu'indirectement. Ils ont dû faire l'impasse. C'est des problèmes de jugement. Mais le fait de le leur dire peut susciter les catastrophes. Voilà pour dire que la parole sur le secret n'est pas la panacée obligatoire de la chose. Elle doit être accompagnée, ensuite elle s'accompagnera d'un travail.
La psychanalyse aussi s'intéresse beaucoup à ces questions de filiation. Quelle est, à vos yeux, la différence avec une thérapie classique ?
Alors c'est une très bonne question parce que la psychanalyse met l'accent finalement sur une partie de cette histoire, c'est-à-dire l'enfant avec ses parents, mais la psychanalyse transgénérationnelle va finalement remonter un peu plus loin et voir de quelle manière les parents qui arrivent sont déjà pris dans les filets d'une histoire avec leurs propres parents. Donc je dirais qu'il y a à la fois une différence de champ d'investigation, mais une énorme ressemblance dans le processus, c'est-à-dire que au fond, on n'interprète pas l'histoire pour la personne qui vient, mais on l'aide à comprendre comment elle se la raconte. Et ça, c'est vraiment le propre de l'analyse transgénérationnelle par rapport à une autre approche qui est la psychogénéalogie, qui est plus destinée à interpréter avec une personne son arbre généalogique comme une vérité extérieure. Donc ce sont deux approches un peu différentes, mais qui au fond aujourd'hui se trouvent souvent mises dans le même panier parce que les gens ignorent leurs différences et leurs spécificités. On est à une époque où on a plus de recul pour réfléchir sur ce que ça veut dire d'y avoir sa place. Qu'est-ce que c'est que notre place généalogique et comment on peut la penser différemment des générations qui nous ont précédées, tout en continuant à finalement à être inspiré par là d'où on vient, par les forces, les ressources et de tous ces gens qui ont été vivants, qui nous ont transmis la vie. Donc il y a aussi à les honorer, mais peut-être à apporter notre participation singulière à tout ça.
Toutes ces questions-là autour de la famille, en tout cas ces aspects de psychogénéalogie, de secret de famille, reviennent sont très à la mode actuellement. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ça ? C'est-à-dire quand même, on est dans un moment depuis trentaine, quarantaine d'années où la famille est assez atomisée, où on a un peu pris nos distances avec cet aspect patriarcal. Et c'est à ce moment précis où d'un seul coup, il y a un intérêt encore plus fort pour ces questionnements-là.
Je pense que je ne lirai pas les deux choses, moi. Je dirais qu'il y a effectivement une vingtaine ou une trentaine d'années que la réflexion sur les problèmes psychologiques a quand même évolué et qu'on est sorti du schéma freudien initial, l'Édipe, simplement, pour entendre de nouveaux aspects, comprendre les aspects de répétition, des choses qui touchent effectivement la généalogie et que la psycho logie s'est enrichie de tout un aspect des comportements qui n'existaient pas auparavant. Et c'est d'ailleurs, peut-être y a-t-il une relation, c'est au moment où peut-être les relations du trio parents, père, mère se dissolvent un peu ou justement perdent de leur dramatisation symbolique qu'on se permet et que nous pouvons aborder le problème des enjeux réels de la chose. Je ne jurerai pas la chose, mais c'est possible de voir qu'effectivement, c'est d'un monde, vous appelez la dissolution patriarcale ou ancienne des lieux, qu'on peut tout d'un coup voir jeter un regard différent sur les relations entre les pères, les mères, les enfants, les filles, les garçons, etc. Et que là, il y a une chose extraordinaire qui apparaît, moi je dis apparaît, n'est pas encore dévoilée. C'est qu'est-ce qui se passe réellement dans l'inconscient de ces gens, les uns avec les autres, qu'est-ce qui se transmet, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui est inéluctable, qu'est-ce qui est transformable. Et ça nous éclaire un peu sur l'avenir de l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire de tout ce qu'il a reçu.